Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9 ce matin dans la matinale. Nous allons parler forêt avec Bernard Debar qui sera mon invité pendant une heure. On parlera pas seulement forêt parce qu'on parlera également photo, on parlera randonnée. Enfin voilà, on va en parler tout au long de cette émission. Si vous souhaitez évidemment réagir à l'émission, vous pouvez envoyer vos SMS au 06 95 065 026. Comme à son habitude, cette émission est enregistrée, donc c'est pas du direct, mais on lit vos SMS après les émissions. Bernard Debarque, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Radio Graphite.
Merci de m'accueillir.
Je crois qu'on est un peu voisins en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Un peu voisins.
Vous n'habitez pas à côté, c'est pas ça ?
Ah si, j'habite tout près, du côté du square Norbert Lajoux, du côté du musée de la déportation, oui, tout près de Graphite.
On va parler un peu donc de vos activités. Vous êtes aujourd'hui correspondant de presse pour le Courrier Picard, mais aujourd'hui on vous invite pour votre passion pour la forêt. On va commencer par une exposition qui va se dérouler, ou qui a déjà commencé. Non, ça commence le 12 septembre, c'est ça ?
Alors non, le vernissage a lieu le 12 septembre, mais la mise en place a lieu dès ce samedi, là, dès le 5 septembre.
Alors l'expo se déroule où ?
Eh bien, chez mes amis de la famille Hutin, donc le magasin Hutin, place Saint-Antoine, bien connu de tous, pas que des photographes à Compiègne, puisque c'est une boutique historique. Et je suis très content que cette famille, qui compte beaucoup pour moi, m'accueille.
Derrière la boutique, en fait, il y a une petite salle secrète où on peut aller voir des expositions,
ouais,
c'est ça ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, elle n'est pas secrète, elle est bien ouverte évidemment à tous et gratuitement pendant tous les horaires d'ouverture du magasin. Mais elle n'est pas forcément très connue. Et donc, c'est l'occasion de la connaître. Effectivement, il y a des expositions en permanence toute l'année là-bas.
Vous aviez fait une exposition à l'hôtel Mercure, du coup, à Compiègne Nord. C'était la même exposition, c'est des nouvelles photos ?
Alors, c'est la même exposition parce qu'effectivement, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était ma toute première exposition. Jusqu'à présent, j'étais toujours resté très réservé sur l'idée d'imprimer, de montrer mes photos ailleurs que sur Internet. Et donc là, pour la première fois, j'ai fait faire des tirages papier de très, très grande qualité. Et surtout, les retours ont été très, très émouvants, très intéressants. J'ai ressenti énormément d'affection, justement, pour les sujets que je photographie et puis un peu pour le style que je pouvais avoir, la personnalité que je pouvais donner à mes photos. Donc, voilà, d'une pierre deux coups, ce sont les mêmes photos, mais par contre, avec une scénographie un peu différente et surtout toutes les photos. On avait été contraint au Mercure de sélectionner, on n'avait pas pu tout afficher. Certaines étaient dans les étages et n'étaient pas accessibles aux visiteurs. Donc là, par contre, vous aurez toutes les photos, il y en a 16 qui seront présentées dans cette exposition.
C'est Vincent de Artefact qui vous a un peu motivé à exposer ?
Oui, on s'est un peu motivé l'un l'autre d'ailleurs, on s'est un peu poussé, mais c'est comme ça que j'aime faire les choses, c'est en se provoquant un tout petit peu amicalement. Et c'est effectivement Vincent de l'agence artistique Artefact qui m'a dit « mais faut y aller garçon, faut exposer de la photo ». Mais pour lui aussi, c'était une première expo photo. Il n'en avait pas encore fait, donc c'était une première pour lui aussi.
Comment est venue cette passion pour la photo et peut-être cette passion pour la forêt ? Est-ce que c'est la photo qui est venue avant la forêt ou est-ce que c'est la forêt qui est venue avant la photo ?
La forêt est venue bien avant. La forêt, pour ainsi dire, je dis souvent, je suis quasiment né dedans puisque ma famille habite en haut de la rue Saint-Lazare, donc à quelques centaines de mètres, j'ai tout fait dans la forêt. Des choses recommandables et des choses moins recommandables à l'époque quand j'étais gamin, évidemment, comme beaucoup. On avait beaucoup joué là-bas et c'est venu bien avant la photo. La photo, c'est venu pour immortaliser des instants et ça reste aujourd'hui ma priorité. C'est d'immortaliser, de rapporter des petits instants de nature, des petits instants de plaisir et de bonheur, de rencontre. Pas simplement avec les animaux, mais avec les végétaux, avec tout ce qui s'y passe. C'est un merveilleux endroit et j'y trouve tout le temps de l'occasion de faire de nouvelles photos. Donc c'est venu bien après la photo.
Le fait de faire de la photo, ça permet de voir des détails qu'on ne verrait pas en randonnée ou
Alors, ça oblige en tout cas à marcher moins vite. Parce qu'effectivement, je suis un grand marcheur et comme beaucoup de marcheurs, j'ai tendance à chercher d'abord l'effort physique. Je ne cours pas, je n'aime pas courir, j'aime prendre le temps. Et du coup, en marchant, la photo m'a appris à m'arrêter. Et du coup, mes randonnées vont beaucoup, beaucoup moins vite qu'avant. La moyenne est beaucoup moins importante. Mais je m'arrête effectivement partout. Et je regarde en haut, en bas, en long, en large et en travers pour essayer de trouver des détails. Je fais beaucoup de photos de détails.
Vous organisez également des randonnées dans la forêt. Alors à la base, c'était vos randonnées perso et puis vous avez ramené du monde avec vous ?
Oui, c'est exactement comme ça. Ben, comme beaucoup, ça m'a toujours énervé de tomber sur des mégots, des canettes, des bouteilles, etc. Tous les déchets qui peuvent se trouver abandonnés en forêt. Mais ça a toujours existé. Je ne me fais aucune illusion, ça existera toujours. Donc face à cette fatalité, j'ai commencé à prendre l'habitude de me promener avec un sac poubelle, puis petit à petit de le remplir, de revenir et puis de mettre ça bien évidemment au tri sélectif. Et l'année dernière, l'opportunité l'opportunité s'est présentée de participer à une opération organisée par la région Hauts-de-France, opération forêt, enfin nature propre, opération Hauts-de-France. Donc je me suis inscrit là-dedans, puis j'ai eu un beaucoup de succès. On a fait tout le tour de Saint-Jean-en-Bois, 360 degrés autour de Saint-Jean dans la forêt, dans les parcelles. Et j'ai emmené 15 personnes, donc ça a été aussi une découverte dans l'animation. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui participaient, tout en étant compiénois finalement, méconnaissaient beaucoup la forêt. Et surtout les enjeux qui sont celles de l'évolution de cette forêt au regard du changement climatique. Donc j'ai petit à petit pris l'habitude d'emmener des gens avec moi et j'ai formulé ça avec une expression à laquelle je tiens, que je n'ai pas déposée mais je pourrais le faire, que j'appelle les rando-nettoyeuses, donc les randonnées nettoyeuses, donc rando-nettoyeuses, où on fait à la fois du ramassage et de la découverte et de l'échange avec tous les passionnés de la forêt de Compiègne.
C'est quoi les choses les plus étranges qu'on peut retrouver dans la forêt ? À part les traditionnelles roues, ce genre de choses.
Voilà, les roues, les pneus, c'est des classiques. Encore plus classiques, les déchets McDo, les canettes, évidemment, ça va de soi. Alors, un peu différemment d'autres équipes qui nettoient la forêt de Compiègne, nous, on rentre beaucoup dans les parcelles. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors, ce n'est pas évidemment pour abîmer le sol. J'y suis extrêmement vigilant, les jeunes pousses en particulier, les insectes. Mais on y trouve là-dedans des déchets que si on ne les ramassait pas, nous, on ne les ramasserait jamais. Et c'est donc beaucoup des déchets d'ouvriers forestiers qui ont été abandonnés, des bidons d'huile, des bouteilles de pinard ou de bière, beaucoup de verre que l'on ramasse. Parmi les choses les plus amusantes, une jambe, une prothèse de jambe, donc un unijambiste a perdu sa prothèse de jambe en forêt et on a retrouvé ça, c'était plutôt rigolo. On trouve beaucoup de bidets aussi, de chiottes, on va appeler ça comme ça entre nous. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Beaucoup de ballons gonflés lors des anniversaires avec du gaz qui monte dans la... J'en trouve quasiment à chaque fois que je sors, ces ballons retombent
dans les kermesses parfois.
Exactement. Ces ballons qui volent un peu partout, parfois ils viennent de très loin, de pays étrangers, mais en tout cas ils se posent en forêt et évidemment il faut les enlever.
Il y a à peu près une trentaine d'années, quand j'étais en maternelle, à chaque kermesse il y avait le lâcher de ballon avec, on mettait son nom dessus et puis le but c'était de recevoir la carte postale le plus loin possible.
C'est ça. Donc il m'arrive aussi de retrouver des ballons qui viennent d'Angleterre ou d'ailleurs j'imagine, mais je peux penser que c'est plutôt l'Angleterre que l'Australie et qui ont voyagé effectivement à travers le ciel.
On va parler juste après d'un extrait musical de la World Cleanup Day. Ça aura lieu le 19 septembre. Vous organisez donc une étape à Compiègne. On en parle juste après un nouveau groupe qui vient d'arriver sur les ondes de Graphite. Il n'est pas encore en prog, c'est un peu une exclue. Ça s'appelle Pierre et le Loup. Pierre et le Loup Fou. Ça vient d'Amiens, c'est tout nouveau, ça vient de sortir et c'est vachement bien. Toujours dans la matinale sur les ondes de Graphite 94.9, vous pouvez nous écouter évidemment sur le net www.graphite.net. Depuis peu de temps, vous pouvez nous écouter sur l'application Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Vous pouvez télécharger une skill qui s'appelle Graphite et vous lui demandez de lancer Graphite, elle lancera très simplement Graphite. Toujours avec Bernard de Bargue pour parler de forêt ce matin. On va parler donc de cet événement qui est plutôt mondial, c'est le World Cleanup des qui aura lieu le 19 septembre. C'est quoi cet événement, en fait ?
Alors, le World Cleanup Day, c'est une organisation internationale qui vient de mémoire, j'espère ne pas me tromper, de l'Europe de l'Est, de Pologne, je crois, qui est organisée, ou d'Estonie, c'est un de ces deux pays-là, organisée par un individuel, un peu comme moi, finalement, un citoyen actif qui s'est dit, il faut donner plus d'écho à ses actions. Moi, je nettoie, mais il faudrait que d'autres me rejoignent. Et ça a connu une envergure extrêmement, une résonance très, très forte. Et l'idée, c'est qu'à travers la planète, le même jour, évidemment, compte tenu des décalages horaires, on puisse réaliser une opération extrêmement vigoureuse et saignante. Et actuellement, pour ce qui est de la France, qui n'en est qu'une antenne, donc le World Cleanup Day France, on va passer incessamment pour peu les 1000 clean-up, donc les 1000 nettoyages organisés par des acteurs comme moi ou des associations locales.
Ouais, c'est ça, c'est un Estonien, il s'appelle Rainer Nolvax, qui a créé ça en 2007, ça s'appelait Let's Do It. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 volontaires dans le monde entier.
C'est colossal. Ouais.
Et le mouvement s'est étendu sur 156 pays, 1,7 million de citoyens pour l'année dernière en 15 septembre 2018. Donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et donc 20 millions pour la 2019. Donc ouais, cette année, ouais, encore plus. Quoi.
Ouais, on a vraiment besoin de déclencher l'action. Tous ceux qui se sentent concernés à un moment donné par les déchets, et en ce moment on a une nouvelle cause de déchets avec les masques Covid, doivent se rendre responsables de leur part. Il faut faire sa part. Et donc la simple fait d'organiser un World Cleanup, c'est très simple. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Mais c'est extrêmement simple, c'est gratuit et ça permet de mobiliser dans son quartier, dans sa rue, dans son village.
Alors vous êtes devenu ambassadeur pour la ville de Compiègne. Ça consiste en quoi d'être ambassadeur ?
Alors ambassadeur, c'est d'être une ressource en fait. C'est d'être à l'écoute des associations ou des entreprises qui veulent créer des clean-up. Et actuellement, à aujourd'hui, sur Compiègne, il y a deux enseignes de la zone commerciale qui ont créé leur propre clean-up, l'enseigne Boulanger et l'enseigne Décathlon. L'enseigne Boulanger a décidé de travailler avec la ville de Joux et de monter un clean-up autour de la zone commerciale et de leurs magasins, avec une thématique pédagogique autour des déchets électroniques, qui sont aussi une source de pollution importante. Et le magasin Décathlon lui a décidé d'aller nettoyer les alentours des étangs de Saint-Pierre, là où se trouve le grimpe à l'arbre, ce qu'on appelle la zone de loisirs, qui récemment a été modifiée par l'ONF en enlevant les postes de grillade. Mais voilà, donc nous, on va se concentrer, j'ai créé un clean-up pour l'instant autour du château de Compiègne, du Grand Parc et des Beaumont.
Comment on s'inscrit ? Est-ce que ça coûte de l'argent ? Parce qu'apparemment, il y a eu un petit peu malentendu. On pensait que c'était 5 euros l'adhésion. Mais...
Oui, j'ai eu des questions en ce sens-là. Non, non. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part l'inscription et d'autre part l'adhésion. L'inscription, elle est totalement gratuite. À la fois l'inscription à un clean-up qui existe déjà. Et donc, sur le site internet worldcleanupday.fr, la version française, ça sera le .fr en extension. Il y a une carte, il suffit de s'inscrire tout simplement sur le bouton rejoindre et de mettre votre nom, prénom et les coordonnées de contact. Ça me permet d'avoir une liste parce qu'on est quand même dans des opérations qui, dans le contexte actuel, nécessitent de savoir combien de personnes vont venir pour qu'on organise tous les groupes dans les conditions sanitaires maximales. Et puis organiser évidemment les sacs, les gants, etc. Mais n'importe qui peut créer son clean-up day, c'est ce qu'ont fait ces deux enseignes-là. Et donc l'inscription est gratuite, je le redis, à la fois l'inscription pour créer un clean-up et pour y participer, mais vous pouvez tout à fait aussi soutenir l'association, hein, qui ne vit que des deniers de ses membres, et cette association est soutenue à hauteur de 5 euros, c'est une adhésion, donc, mais c'est totalement différent de l'inscription.
Ça permet d'être aussi couvert par l'association, c'est ça, par l'assurance
de
l'association, c'est
ça ? Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans le principe de cette association, il n'est pas demandé à ce que ce soit forcément des associations qui s'assurent elles-mêmes. Si on fait partie de l'association et que l'événement est référencé, en ayant simultanément effectivement fait les demandes auprès de la municipalité, ce que j'ai évidemment fait auprès de la mairie de Compiègne, et en déposant un dossier à la préfecture, un formulaire tout simplement qui permet à la préfecture et aux autorités d'être prévenues de ce rassemblement, dans le respect évidemment de toutes les mesures sanitaires, on est couvert par l'assurance s'il devait y avoir un souci. Mais en prenant toutes les précautions, avec des gens gantés. C'est un élément supplémentaire, en plus des masques, bien sûr, qui est essentiel quand on fait du ramassage. On est ganté, on ne touche aucun des objets que l'on ramasse directement à la main. On peut se blesser quand c'est du verre, mais on peut aussi toucher du coup des masques, et il est hors de question de toucher un masque contaminé. Donc avec les explications qui sont données et qui sont redonnées le jour de l'événement par les différents organisateurs, il ne devrait y avoir aucun souci.
Vous mettez quoi à disposition? Des sacs, des gants, des petites pinces, peut-être des petites pinces de ramassage, non?
Alors, je vais parler pour la mienne. À titre personnel, ou en tout cas pour ce clean-up-là, j'ai le plein soutien du service développement durable et du service tri de la ville de Compiègne, des ménagères du tri, elles s'appellent. C'est une équipe très, très efficace. Donc, on aura des sacs, on aura également des containers pour regrouper les sacs. Les containers seront réenlevés et emmenés à la déchetterie de la ville et au tri sélectif dès le samedi soir. Les gants, par contre, il n'y en a pas actuellement en budget sur la ville de Compiègne. Donc, je demande effectivement à tous les participants de venir avec une paire de gants. Et j'ai moi-même acheté une vingtaine de gants supplémentaires, plus une dizaine de pinces qui permettent justement de ramasser au sol. Donc, je les prêterai à ceux qui veulent participer, parce que cette activité ne s'entend pas que sur cet événement-là. J'organise, comme je vous le disais, beaucoup d'actions tout au long de l'année, donc elles resserviront. Voilà.
Est-ce qu'une entreprise qui nous écoute, là, qui veut vous filer un coup de main, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut vous acheter des gants et puis vous acheter des pinces? Est-ce qu'on peut vous contacter quelque part?
Ah, alors, oui, bien sûr. Alors, on peut me contacter par plein de moyens. Si on en est là, effectivement, évidemment, le plus simple, c'est d'aller sur la carte du Cleanup Day, de rejoindre ce Cleanup-là. Et effectivement, vous avez dessus mes coordonnées pour me contacter. Les entreprises peuvent également, c'est important de le dire, organiser leur propre Cleanup. Si elles veulent elles-mêmes, autour d'elles, dans les locaux ou autour des locaux, faire un nettoyage, elles peuvent le faire. Les écoles également, j'invite tous les enseignants qui nous écoutent à générer justement des occasions avec leurs élèves, quel que soit leur âge, de nettoyer l'école, de nettoyer les alentours de l'école, d'en faire un acte aussi pédagogique que citoyen. Donc il n'y a aucun problème pour ça et tout le monde peut me contacter. Après, le plus simple pour me contacter, c'est les réseaux sociaux.
Par la page Facebook?
Oui, voilà.
On donnera les infos tout à l'heure et puis on les mettra dans le replay en bas sur la page Facebook de la radio. Vous animez également une page Facebook, justement, puisqu'on va rester sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Nous aimons la forêt de Compiègne, qui parle uniquement de la forêt de Compiègne ou un petit peu de la forêt de l'Aigle et de la forêt de l'Ourscan?
Alors, une bonne question, tout de suite, on rentre dans le dur. Pour l'instant, elle parle de la forêt de Compiègne. Alors, je n'ignore absolument pas la forêt de l'Aigle, d'autant que ma maman habite à proximité de la forêt de l'Aigle, donc j'y suis très, très, très souvent.
C'est collé, surtout.
Pardon, c'est tout à fait collé, ça fait partie du même domaine. Donc, la gestion des deux domaines est tout à fait associée. Ourscan, Carlepont, effectivement, peuvent être tout à fait aussi rapprochés. Mais voilà, il y a une entité géologique, géographique de biodiversité au massif de Compiègne, qui est quand même spécifique à ce massif-là. Une taille aussi qui est considérable. C'est le troisième massif domanial de France avec 14 500 hectares. Et il y a des enjeux et des caractéristiques et suffisamment d'attention à y apporter pour que je ne me disperse pas. Donc aucune exclusion à nos amis qui entourent la forêt de l'Aigle et qui la pratiquent exclusivement. Mais bien évidemment, il y a une dominante sur la forêt de Compiègne.
C'est quoi la caractéristique de la forêt de Compiègne?
Alors, elle a malheureusement pour elle plein de caractéristiques qui sont plutôt à son désavantage, qui sont liées à son histoire, qui sont liées au sol, essentiellement à la constitution géologique des sols.
C'est un sol plutôt sablonneux,
ah
c'est
oui.
ça
ouais. Ah oui, oui, extrêmement sablonneux, donc qui draine pas, enfin plutôt qui draine beaucoup l'eau, c'est-à-dire que l'eau ne reste pas, l'eau elle s'étend, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de rues en forêt. Donc l'eau ne reste pas, la terre est assez pauvre et on a évidemment de plus en plus de difficultés aujourd'hui avec l'évolution climatique à assurer justement le ravitaillement en eau d'un arbre. Un chêne séculaire qui a plusieurs centaines d'années nécessite plusieurs centaines d'eau par jour pour sa propre survie. Il doit la drainer par l'écorce jusqu'au sommet et générer bien évidemment la sève. Donc l'absence d'eau est très préjudiciable au massif de Compiègne.
Donc les rues sont des rues qui sont fabriquées par l'homme, en fait, pour irriguer la forêt?
Non. À ma connaissance, j'ai aussi beaucoup bossé sur l'histoire de la forêt de Compiègne. Tous les rues sont totalement d'époque, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment liés à la sortie d'une source et après à la descente, puisque la forêt est bordée au sud et à l'est par des monts, donc par des petites, on ne peut pas dire des montagnes, évidemment, des petits monts. Mais c'est ces petits monts qui génèrent justement des sources. Ces sources après coulent soit vers l'Aisne, soit vers l'Oise.
Il y avait aussi l'insecte, là, le hanneton, qui est un gros problème en forêt de Compiègne. C'est oui. justement lié au sol sablonneux.
Alors, c'est lié au sol sablonneux, au fait que le hanneton a besoin de creuser un tunnel pour aller pondre ses larves. Ces larves qui vont après passer 3 ans dans le sol, pendant lesquels elles vont grandir. Donc les larves, évidemment, ont aussi besoin de trouver un sol extrêmement friable pour pouvoir se mouvoir et aller
se nourrir. C'est des grosses larves blanches.
Voilà. Alors, évidemment, elles grossissent et elles deviennent des grosses larves blanches. Et en cette année 2020, au printemps, pendant que nous étions confinés, presque à la fin du confinement, on a eu ce qu'on appelle un envol, c'est-à-dire une très, très, très grosse, des millions de hannetons qui sont sortis de terre adultes et qui, pendant quelques semaines, ont dévoré toutes les jeunes feuilles qui étaient sur les arbres. C'était un cauchemar pour les naturalistes que nous sommes.
C'est quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs en vidéo sur votre page Facebook, là nous aimons la forêt de Compiègne, où on voit une récolte, vous allez récolter des hannetons pour donner ensuite aux poules.
Oui, parce que je suis comme beaucoup et comme tout le monde même à me demander mais comment est-ce qu'on peut faire face à cette calamité. Et en fait, en regardant les livres les plus anciens, en retrouvant la façon dont faisaient les anciens, puisque les hannetons, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas spécifique à l'actualité, eh bien, ils faisaient ce qui est pratiquement comme une glandée, c'est-à-dire ils allaient taper avec des bâtons dans les arbres pour faire tomber très bêtement ces animaux qui ne sont pas très malins, je dois le dire, et qui volent extrêmement mal, qui sont assez fragiles. Et on récolte au sol, et effectivement, ce sont des insectes pleins de protéines dont raffolent les poules, dont raffolent les cochons. Et à l'époque, on trouvait même une rémunération. Donc, selon au sac de 50 kilos, vous aviez une petite pièce. Ça permettait de nourrir les cochons et du coup, d'éviter que ces hannetons se reproduisent à nouveau.
Donc, ce n'est pas un problème nouveau, en fait. Ce n'est pas que le réchauffement climatique qui fait qu'il y a beaucoup de hannetons aujourd'hui. C'est également un cycle.
Oui, c'est un cycle de 4 ans. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est reparti tranquille jusqu'en 2024. Mais on aura très peu de hannetons l'année prochaine, au mois de mars et avril, et ainsi de suite, pendant au moins 3 ans, donc jusqu'au 4e année. Mais le problème reste en terre. Donc c'est une grenade presque dégoupillée, parmi d'autres. Et c'est donc l'accumulation de tous ces soucis-là qui, effectivement, rend la forêt de Compiègne extrêmement fragile.
Là, c'était pendant le confinement, enfin un petit peu à la fin du confinement. Du coup, l'année prochaine, vous allez organiser des clean-up hannetons, des récoltes de hannetons en forêt.
Alors, ça pourrait être le cas, mais il reste que d'y en avoir en fait assez peu. On a vraiment 95% de la population hanneton qui est réglée sur ce cycle de ces 4 années-là. On sait exactement que c'est en 2024 qu'on va de nouveau voir des millions de hannetons dans les airs.
On écoute un extrait musical, King Cruel, ça rentre en prog, c'est aussi nouveau, il y a eu plein de nouveautés pendant les vacances, ça s'appelle Comet Face.
Oh,
King Krul sur les ondes de Graphite 94.9. www.graphite.net partout dans le monde. Et maintenant sur vos smartphones, dans vos box, dans vos smart TV, dans vos assistants vocaux. Toujours en compagnie de Bernard Debargue pour parler de la forêt, de photos et puis de tout ce qui s'en rapproche. On va parler un peu de l'expo là qui a, enfin l'expo c'est plutôt une installation artistique qui a été mise en place en partenariat avec l'ONF. Vous allez justement avec votre casquette de correspondant de presse aller faire un tour. Je crois qu'il y a déjà eu un article, c'est ça? Il y a déjà eu une petite bafouille dessus, c'est ça, une brève?
Alors. Pour ce qui concerne cette installation artistique, effectivement, j'attire l'attention de tous les auditeurs de Graphite, qu'ils soient amoureux ou pas de la forêt. Si vous écoutez Graphite, c'est que vous êtes des gens de goût. Et donc, pour valoriser ce goût-là, il y a vraiment une extraordinaire nouvelle à partager et à connaître. C'est qu'un tout jeune artiste, il a 23 ans, Vincent, qui est designer, qui est dans une école, l'école Estienne.
Nicolas Lepreux.
Nicolas Lepreux. Oui, tout à fait. Il faut lui rendre ça. Il est de Saint-Omer, en plus. Il est pas loin. Et donc, il a choisi de fabriquer, pour passer son diplôme de designer dans l'école Estienne, de fabriquer une énorme œuvre en bois, intégralement en chêne, qui représente, dans son idée, et c'est une idée que vous allez partager une fois que vous serez sur place, le cœur de la forêt, ce qu'il a appelé le corps Sylvae. C'est énorme. J'ai fait hier une première vidéo. D'ailleurs, hier, c'est lundi. Pour
lundi 31 août, ouais.
Voilà, pour la diffusion. Donc, sur le groupe Nous aimons la forêt de Compiègne, et effectivement, on suit ça de très près avec Loco et Picard, parce que c'est une installation qui est pérenne, qui a vocation à rester là plusieurs années. Donc, à vous de la découvrir, à la fois en images et en visite, surtout tout en haut des Beaumonts, ce qu'on appelle le Belvédère. Vous la découvrirez en arrivant en haut des Beaumonts. Donc, si vous vous baladez et que vous dites « je vais aller au haut des Beaumonts », maintenant vous direz « je vais au cœur de la forêt ». Et vous parlerez donc de cette œuvre-là qui symbolise de façon extrêmement poétique et puissante, justement, toutes les beautés que la forêt nous offre.
Le Belvédère est plus accessible, je crois, en voiture?
Non, mais non. Enfin, il est accessible jusqu'à un petit parking. On y accède en fait en passant par ce qu'on appelle derrière, par le derrière des Beaumonts. Hein, par l'abbaye de Saint-Corneille, le carrefour de Caborne, et on peut y monter en voiture par derrière. Mais effectivement, la route qu'on a pu connaître dans d'autres époques par devant, par le carrefour du Tréhant, est fermée à la circulation, et c'est heureux comme ça. Ça protège cette zone qui est une zone de biodiversité dirigée, donc qui bénéficie d'un statut de protection très
Natura 2000, c'est une zone
Natura
2000.
Natura 2000, absolument, oui, tout à fait.
C'est quoi la chose la plus atypique que vous avez pu voir en forêt? Alors, parce qu'on peut suivre, quand on suit un petit peu vos randonnées, on peut découvrir qu'il y avait des fabricants de verre dans le coin,
oui.
On peut revoir encore les anciens fours, ce genre de choses. C'est quoi la chose où on se dit, qu'est-ce que ça fait en forêt, quoi? En dehors des déchets.
Alors, en dehors des déchets, il y a beaucoup de merveilles. Et c'est justement important que je le précise. Le groupe qui s'appelle Nous aimons la forêt de Compiègne a des valeurs. Ces valeurs, c'est moi qui les porte. J'en suis le fondateur et quelque part le garant. C'est des valeurs de diversité, de curiosité, d'intérêt, de beauté. En clair, on parle de positif. On n'est pas là pour tirer, entre guillemets, j'emploie cette expression évidemment pas tout à fait par hasard, de tirer sur tout ce qui bouge, sur ceux qui pourraient, pour d'autres objectifs que simplement le plaisir, utiliser ou participer à la vie ou à la survie de la forêt. Donc je reste très très poétique dans cette page-là, très ouvert. Et il y a un endroit que j'aime énormément faire découvrir, mais alors aux privilégiés, à ceux qui ont le plaisir de venir avec moi et que j'ai le plaisir d'accompagner, qui est très peu connu, donc je ne vais pas vous parler ni de Pierrefonds, ni de Vieux-Moulins, ni de Saint-Jean-Bois, ni des Beaumonts, qui sont évidemment des classiques aujourd'hui, mais de la chapelle de Neuffontaine. C'est une magnifique chapelle qui est très très ancienne et qui a été rénovée et réinstallée par l'architecte de Pierrefonds, dont le nom tout de suite évidemment m'échappe, et Brian.
L'architecte qui a fait le château de Pierrefonds.
Voilà.
Viollet-le-Duc.
Mais merci, merci. C'est pour ça qu'on est deux. Viollet-le-Duc, le nom était sur le bout de ma langue. Donc, c'est une chapelle qui a été rénovée par Viollet-le-Duc, mais qui est en pleine forêt, qui est un endroit absolument magique et qu'il est très difficile de connaître, malheureusement pour lui ou heureusement pour lui.
Juste ça le préserve un petit peu, quoi.
Tout à fait. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller visiter la chapelle de Neuffontaine, c'est tout près du domaine de la Chénois. Voilà, je vous ai donné un indice pour le trouver et vous allez prendre une belle émotion.
Du coup, le domaine de la Chénois, c'est là où il y avait l'institution, où il y avait que des filles, c'est ça? Il y a toujours des filles, ouais,
toujours.
C'est ça?
Alors, que des filles, je n'ai pas été voir. Excusez-moi.
Mais avant, c'était que des filles. Ouais.
C'est Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a toujours cette institution qui est là. Et la chapelle en est toute proche. On peut la voir, on ne peut pas la visiter. Elle est fermée au public parce que malheureusement, elle a été vandalisée il y a quelques années. Mais en tout cas, le lieu dans lequel elle est je trouve, un lieu forestier magique.
C'est quoi l'évolution de la forêt? Comment vous l'avez vue, vous, depuis de nombreuses années? Ça évolue dans quel sens, la forêt?
Alors, la forêt évolue malheureusement plutôt, évidemment, dans la dégradation. J'ai tendance à penser que les incivilités augmentent, les comportements à risque aussi, liés à l'évolution de la société. Je vais en citer un, par exemple, qui n'est pas totalement anodin, qui est la vitesse sur les routes. La forêt de Compiègne est traversée par deux routes principales, la route de Pierrefonds et la route de Crépy, qui sont aujourd'hui des boulevards, clairement des boulevards, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Les quelques opérations de relevé de vitesse qui ont été faites par la gendarmerie montrent assez fréquemment des vitesses quasiment du double. C'est extrêmement dangereux. C'est évidemment extrêmement dangereux à la fois pour les pilotes, les conducteurs, mais aussi pour les animaux. On trouve malheureusement extrêmement fréquemment en bord de route des petits blaireaux, des petits ratons laveurs, des sangliers, des biches et tout un tas, malheureusement, d'animaux qui n'ont pas survécu au choc automobile. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me préoccupe pas mal, la vitesse à l'intérieur de la forêt. La route Génie, par exemple, aussi, c'est à citer, qui va de Vieux-Moulins à Pierrefonds, est limitée à 60 à l'heure. Et moi, je suis toujours à 60 à l'heure, ou guère plus, plutôt moins évidemment, sur cette route-là, et très fréquemment dépassé. Dans Vieux-Moulins, il y a eu récemment un accident de la circulation avec deux voitures très, très endommagées, des blessés. Dans Vieux-Moulins, la circulation est à 30 à l'heure. Et malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux à respecter cette vitesse.
Les animaux, pareil, il y a une évolution. J'ai l'impression qu'on les voit un peu plus sur les routes. Notamment, tout à l'heure, vous parliez des ratons laveurs.
Oui.
C'est un peu nouveau. Je vois souvent des ratons laveurs quand je rentre en forêt.
Oui.
Mais avant,
oui,
j'en voyais pas.
Alors, le raton laveur, si on peut lui faire un cas, c'est un animal qui n'a rien à faire en forêt de Compiègne, d'origine.
Ouais, les soldats qui l'ont ramené, c'est ça?
Oui, c'est, en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Je n'ai pas de preuves de cela, mais ça serait effectivement des régiments de soldats américains. Donc, ça nous ramènerait à la Deuxième Guerre mondiale.
Soldats de l'OTAN, apparemment.
Ah, peut-être moi, aussi. Ouais,
en fait. En fait, ce que j'avais lu, c'était soldats de l'OTAN, les années 50, quand ils sont repartis, les contingents, c'était leur mascotte.
Voilà.
Et ils ont relâché...
Voilà, beaucoup de régiments, effectivement, ont le raton laveur pour mascotte, donc ils en avaient. Et comme les ratons laveurs se reproduisent rapidement, ils se retrouvaient avec des portées et ils ne savaient pas trop quoi en faire, donc ils s'en débarrassaient en forêt. Sauf que c'est un animal qui se nourrit beaucoup d'autres petits animaux qui sont par contre, eux, des endémiques de la forêt, évidemment, des petits mulots, des petites
musaraignes, ce genre de choses.
Des musaraignes, des animaux qui sont beaucoup autour des zones humides. Donc évidemment des grenouilles, des reptiles, des têtards, ce genre de choses. Donc c'est un prédateur qui n'en a pas. Lui, en tant que tel, il n'est pas chassé, il n'a pas de prédateur particulier. Et effectivement, aujourd'hui, on est un peu embêté parce qu'on aime bien cet animal. Les photos de ratons laveurs font toujours de gros likes sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la biodiversité de la forêt de Compiègne malgré tout.
Ouais, c'est la dernière fois, en rentrant à Tracy, il y en avait un sur le bord de la route qui marchait. Je me suis arrêté, je vais à la fenêtre. Et puis il s'est mis sur ses petites pattes arrière, il m'a regardé du genre « donne-moi un truc à manger ».
Ah, c'est pas farouche.
C'est pas du tout farouche.
Non, c'est pas farouche. C'est pas farouche. Contrairement aux martres, on en trouve. Là, par contre, les martres, c'est un gros. Enfin, ça ressemble évidemment.
Un castor.
Alors, c'est un animal qui monte beaucoup mieux dans les arbres.
D'accord.
Que ne le ferait le castor. Proche du castor, on peut citer un autre invasif qu'on trouve dans les lacs et dans les étangs de la forêt, c'est le ragondin.
Bien sûr.
On en trouve évidemment beaucoup aussi à Compiègne, et ça, c'est pas top non plus. En clair, une fois, ce problème, c'est un problème d'équilibre. Si on parlait des cervidés, on parlerait aussi des problèmes d'équilibre. Il faut un équilibre entre la surface et la nourriture disponible, et évidemment les autres acteurs de la forêt et les animaux, et ces équilibres sont dans la quasi-totalité des espèces totalement déséquilibrés, justement.
Ouais, il leur faudrait des animaux qui les chassent. Il faudrait des loups, réintroduire le loup à Compiègne.
Ah, le loup.
D'ailleurs, alors, vous en avez parlé pendant les vacances, il y a eu des petites brèves dans le Courrier Picard où vous parliez des choses qui ont un peu disparu, notamment le loup à Compiègne.
Oui, alors je profite également de l'antenne de Graphite pour lancer cet appel. Si vous avez le moindre soupçon d'observation de loup, utilisez au maximum effectivement les moyens dont Brian vous a parlé, qui vous rappellera pour me contacter. Je connais très très bien aujourd'hui les caractéristiques à la fois visuelles, les indices de présence. J'ai été moi-même observer les loups en Italie et dans le Jura, donc je sais à quoi ça ressemble, je sais quelles sont les différences par rapport aux chiens, et il y en a. Elles ne sont pas évidentes, mais il y en a. Mais on sait que le loup est passé en forêt de Compiègne et qu'il repassera. Il n'a aucune raison de ne pas le faire, puisque les observations en Charente-Maritime et en Normandie sont, elles, complètement validées. En clair, les loups se dispersent depuis l'est de la France, ils sont venus depuis l'Italie, et les loups solitaires, hein, ce ne sont que des loups solitaires, cherchent évidemment de nouveaux territoires pour s'étendre, ce qu'on appelle la dispersion. Et une fois arrivés évidemment face à la mer, ils sont bloqués là. Donc là, on a des zones d'observation beaucoup plus fréquentes, et en Bretagne particulièrement, il y a des loups qui se sont installés, ils ont donc traversé toute la France, en passant par des zones extrêmement habitées et urbanisées. Et donc, de façon totalement statistique, la présence du loup est forcément en forêt de Compiègne, mais ce n'est pas une présence stable, ce sont des passages. Mais je serais très intéressé si certains des auditeurs font des observations.
Donc on fait un appel aux loups. Si vous voyez des loups, envoyez-nous un message. On fera, de toute façon, même si vous n'avez pas les contacts sur la page Facebook, appelez-nous à la radio, on transmettra avec grand plaisir. Là, aujourd'hui, on va vous retrouver donc, pour l'exposition. On rappelle les dates de l'exposition qui seront donc à la boutique Hutin.
Alors, j'ai un petit trou d'air, mais Brian le mettra sur la page de l'émission sur la date de fin. Par contre, la date de début, ça, je la connais, celle-là, puisque je dois faire l'accrochage. Ça sera dès le 5 septembre, avec un vernissage le 12 septembre. Donc, les horaires vous seront précisés. Moi, je serai présent à plusieurs reprises, parce que ça aussi, c'était une belle découverte à l'occasion de la première version Hôtel Mercure. C'est que j'ai quasiment fait visiter l'exposition comme si j'emmenais les gens en forêt. Et je leur explique chaque photo, pourquoi je l'ai prise, comment je l'ai prise, qu'est-ce qu'elle dit de la forêt. Et ça a donné à chaque fois des soirées extrêmement intéressantes dans les échanges. Et donc, voilà, je vous inviterai aussi à ces visites accompagnées de cette exposition photo.
C'est donc situé derrière la boutique des photos Hutin de 14h30 à 17h30. On parle toujours de la World Cleanup Day. C'est ça, World Cleanup Day.
Avec plaisir.
Et donc ça, c'est le 19 septembre.
Oui, c'est le 19 septembre. Donc, de façon extrêmement précise, le rendez-vous que nous aurons sera place du Château, hein, ce qui s'appelle officiellement la place du Général de Gaulle, mais on la connaît tous sous le nom de place du Château. Donc devant le Château de Compiègne, rassurez-vous, on se repérera facilement puisque le rendez-vous est à 8h du matin. Donc je pense qu'on sera...
Vous ne serez pas nombreux.
Si, on sera très nombreux.
Vous ne serez pas nombreux en dehors
pour ça. Que pour assurer justement cette opération. Il y aura deux groupes qui seront constitués. Un groupe qui s'occupera du Grand Parc et qui pourra être constitué de familles avec les enfants. Aucun problème, d'animaux de compagnie, pourquoi pas, s'ils, encore une fois, sont tenus en laisse dans les conditions habituelles de ce genre d'espace. Et puis un autre groupe un peu plus musclé, celui-là, un peu plus randonneur, qui s'occupera de l'avenue des Beaumont elle-même et qui remontera jusqu'au cœur de la forêt. Et donc, ça sera l'objectif de ce groupe-là.
Et donc, vous montrez jusqu'en haut du Belvédère pour aller voir...
Voilà. Et on cassera une petite croûte en fin de matinée, puisque c'est une opération qui sera finie en fin de matinée. Après la récupération des sacs, je la gère avec l'équipe de la ville de Compiègne, qui est tout à fait à 100% motivée pour cette opération.
Les randos nettoyeuses, ça sera quand la prochaine rando nettoyeuse, du coup, après la World Cleanup
Dès. Alors vraisemblablement, dès la semaine suivante, pour ceux qui éventuellement seraient pris le 19, parce que le 19, il y a pas mal de choses. Je sais qu'il y a les journées du patrimoine en particulier. Il peut y avoir des occasions qui vous frustrent et qui vous disent « Ah mince, je ne peux pas ». Parce que dès le week-end suivant, je fais une autre opération, celle-là accompagnée par le groupe Leclerc. Leclerc organise depuis des années une opération nationale qui s'appelle « Nettoyons la nature ». Moi, je tire tous les moyens possibles. Et là, ils nous fourniront estampillés Leclerc, bien sûr, tous les gants, les masques qui vont bien, les chasubles. Et donc, dès le week-end de suivant, ça reprendra. Je ne sais pas encore exactement où. Et de toute façon, les occasions, quand il y en a, sont sur la page Facebook du groupe « Nous aimons la forêt de Compiègne ». Je le fais quand je peux. Essentiellement.
Sur cette page Facebook, on peut également signaler des dépôts, tout ce qui est amiante, trucs de chantier, ce genre de choses.
Oui.
Et ensuite, vous chargez de soit d'aller faire une petite enquête avec la police, c'est ça, vérifier si on retrouve pas les coordonnées du malotru. Et ensuite, vous enlevez les encombrants.
C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont impliqués dans le ramassage et dans le suivi des déchets en forêt de Compiègne. Il y a pas que moi du tout. Mais effectivement, si vous avez des observations, si vous regardez, si vous voyez des dépôts, faites des photos, postez sur le groupe effectivement vos photos, localisez exactement l'endroit, éventuellement l'importance du dépôt, qu'on sache s'il faut y aller avec une estafette ou un camion, ou moins, et c'est tout. N'en faites pas plus dans un premier temps, parce que comme le disait effectivement Brian, on essaye à chaque fois de pouvoir éventuellement retrouver des traces, des preuves, et pour cela on peut compter sur l'efficacité du poste à gendarmerie à cheval de Compiègne, où ils sont très très mobilisés là-dessus, mais donc ça devient quasiment une enquête, et donc il ne faut pas souiller la scène de nos propres traces pour localiser si on peut avoir un bon de livraison, une facture, pour envoyer à l'envoyeur les fameux déchets. Et effectivement, après, on gère la collecte. Je tiens à citer à ce titre-là une équipe particulièrement organisée, motivée depuis très 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 longtemps, qui est l'équipe Fort et Propre, animée par Pascal Carouge, de l'association de la SPFC, la sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiénois, qui fait énormément de travail tous les mois, voire plusieurs fois par mois, avec une remorque et tous les moyens pour récupérer les gros dépôts.
C'est également eux qui repeignent les poteaux en forêt de Compiègne et qui refont les petits ponts.
Voilà, c'est une association qui a de multiples activités. Si vous avez vraiment envie de vous impliquer, envie de passer du temps et d'être utile à la société, mais surtout à la forêt qui nous donne tant gratuitement en contrepartie. Effectivement, c'est une association, comme l'a dit Brian, mais qui fait également aujourd'hui une grosse action sur la rénovation des petits ponts de forêt, ce qu'on appelle les ponceaux. Qui ont pour la plupart plusieurs centaines d'années, 300 ans à peu près, et qui nécessitent pour la plupart un entretien qu'ils n'ont pas eu pendant des années. Donc effectivement, le nettoyage et l'entretien des poteaux de forêt, c'est un élément aussi évidemment vital pour nous, Compiénois. On est très attachés à nos 311 poteaux.
Qu'est-ce qui manque en forêt? Il manque du monde. L'ONF est en perte de personnel. Il manque, parce que je ne sais pas, par exemple, que quand j'habitais à Tracy, c'était aussi les agents municipaux qui rentraient un petit peu dans la forêt, ramassaient les cochonneries qui étaient laissées par les jeunes ou ce genre de choses.
Alors, l'effectif actuel de l'unité territoriale de Compiègne, je ne le connais pas à l'unité près, mais en gros, je crois qu'ils sont 12 ou 13 pour un massif de 14 500 hectares. À partir de là, je vous ai tout dit, ils sont évidemment incapables, avec toute la bonne volonté que certains peuvent avoir, de s'occuper concrètement de tout cela. Donc, ils s'appuient aussi sur les associations, ils s'appuient aussi sur les collectivités, les routes départementales. Je vous parlais de la route de Crépy ou de la route de Pierrefonds, sont des routes départementales et il est très fréquent qu'on y voit les agents du département, avec des véhicules du conseil départemental de l'Oise, qui sont en train de les nettoyer, et y compris les abords de Compiègne. Je tiens à le citer, récemment, on a eu affaire à deux gros dépôts de WC, de restes de maçonnerie, qui étaient juste à la sortie de Compiègne, après le panneau sortie Compiègne en direction de Crépy, où là, j'ai joué de mon carnet d'adresse, effectivement, de mes contacts, et j'ai mobilisé la ville de Compiègne. Aujourd'hui, l'adjoint en charge de ce sujet s'appelle Marc-Antoine Bréquiez, c'est aussi quelqu'un de très actif dans le domaine de la forêt avec son association Turbo Bosquet, à qui je fais un petit clin d'œil. Et donc, Marc-Antoine a fait venir une équipe, et l'équipe a récupéré tout ça. Mais tout ça mobilise énormément d'énergie. Bien sûr, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Mais l'incivilité, bon, je suis fataliste, hein, je me dis qu'elle existait et qu'elle existera.
La solution, c'est quoi? C'est d'ouvrir les décharges, enfin les déchetteries. Parce que souvent, là, c'est des dépôts qui sont faits de petits professionnels, c'est ça?
Oui. Objectivement, les gros, entre guillemets, les grosses entreprises de bâtiments sont organisées. Elles ne prennent absolument pas de risques avec cela. Elles vous facturent, de toute façon, si vous leur commandez des travaux, elles vous facturent l'enlèvement en fin de chantier des déchets. Donc, cette facturation inclut le dépôt en déchetterie. C'est marqué noir sur blanc sur leur facture. Après, malheureusement, celles qui sont les moins disantes, économiques, bien souvent, qui travaillent au black, pourquoi pas, évidemment, elles vous le facturent, elles vous le font payer, mais elles ne le font pas, elles s'en débarrassent. Et effectivement, vous avez raison, il y a aussi une condition qui est réellement compliquée pour les entreprises, c'est les horaires des déchetteries. Là, pendant la période de confinement et post-confinement, la déchetterie a changé plusieurs fois de plage horaire avec des pertes de rendez-vous. Pour une entreprise, c'est juste ingérable. Ouais, ingérable. Ils doivent recharger à la fin de la journée, ils ne peuvent pas recharger avant la fin de la journée, donc il est largement passé 18 heures. La déchetterie, ça fait longtemps qu'elle est fermée. Et le lendemain matin, il faut qu'ils repartent à vide. Donc, s'ils sont attentifs, ils vont stocker ça dans un coin et puis après refaire un deuxième voyage à la déchetterie. S'ils sont moins bienveillants, ils vont se débarrasser en forêt.
En fait, c'est un coût pour tout le monde, puisque quand les déchets sont mis dans la forêt, c'est un coût pour la collectivité, parce qu'il faut les enlever. Quand c'est pour l'entrepreneur, c'est pareil. Enfin, c'est aussi un petit problème d'argent.
C'est aussi un problème d'argent quand effectivement les entreprises doivent payer pour les déchets. Mais je me permets quand même de préciser que quand on commande des travaux à une entreprise, elle nous le facture. Donc elle ne nous le facture pas pour les balancer en forêt. Elle nous le facture parce qu'elle a inclus dedans le coût que la déchetterie va lui facturer, effectivement, le dépôt. Et en soi, c'est tout à fait normal.
L'amiante à Compiègne, c'est géré comment ? On peut, quand on est particulier, on peut aller déposer ces petites plaques d'amiante en déchetterie ou...
Alors, le cas particulier de l'amiante et de ce genre de fibrociment, hein, on parle aussi de ces fameuses plaques ondulées de fibrociment qui malheureusement sont encore
souvent,
fort
c'est des
nombreuses.
Toitures. Ouais.
Ouais, des éléments de petites vérandas, de petites toitures additionnelles, effectivement. Bah, malheureusement, ne sont pas pris en déchetterie parce qu'elles nécessitent un traitement tout à fait spécifique que les déchetteries ne sont pas à même de faire. Hein. Mais comme les roues ou les batteries, enfin pas les batteries, mais les extincteurs par exemple. En fin de vie, un extincteur, c'est la croix à la bannière pour s'en débarrasser, alors que de le jeter en forêt, ben, finalement, c'est tellement plus simple. Donc effectivement, sur le fibrociment et l'amiante, là, en l'occurrence, ce sont quelques entreprises qui sont spécialisées. Et parfois, j'ai vu des dépôts rester plus d'une année en forêt, au même endroit, sans que personne ne mette la main dessus, nous compris, avant qu'une entreprise spécialisée vienne les récupérer pour les désamianter.
On va faire une courte pause musicale pour terminer cette émission avec Bernard Tebarg pour parler de la forêt de Compiègne, parler des randos nettoyeuses et de l'exposition. On écoute tout de suite un extrait du dernier album de Rachita, c'est Je suis africain et c'est également le nom de l'album.
Je suis africain. Africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro.
Rachita avec cet album Je suis africain, un titre qui va rentrer en prog sur Graphite. C'est presque la fin de cette émission. Si vous l'avez pris en cours de route, vous pouvez la réécouter sur le net, www.graphite.net, il y a le podcast. Et j'ai reçu un petit message sur la page Facebook de la radio pour vous annoncer, pour vous parler d'un événement qui aura également lieu le 13 septembre. C'est la 13e ESCAR Day, ça se déroulera au Zicodrome. Bon, normalement, il y a des concerts, mais il n'y aura pas de concert cette année. Donc, il y a un show de voitures anciennes, de voitures plutôt américaines, des pin-up, des tatouages, tout ça, c'est au Zicodrome. Et c'est donc, je vous le rappelle, le 13 septembre. Peut-être qu'on aura l'organisateur à l'antenne, on verra, on va essayer de négocier ça. On est toujours avec du coup Bernard Debarque pour parler de la forêt de Compiègne, de l'expo. On va redonner un petit peu toutes les informations. On recommence par l'exposition du coup au magasin.
Alors, exposition de photos dont le nom est Esprit Sylvestre au masculin, au singulier, pardon. L'esprit de la forêt, clairement. À travers des photos, à travers une quinzaine de clichés, de grands tirages qui sont à vendre. Vous pouvez les acheter aussi pour décorer vos intérieurs. Y a pas de
C'est soucis. Combien du coup le tirage classique ?
Alors, la grille de prix dépend en fait de la taille. J'ai fait des prix coûtants. Hein. C'est pour moi une activité qui n'est pas du tout professionnelle là-dessus. En tout cas, je revends vraiment les tirages au prix coûtant. Mais disons, on est dans une gamme entre 150 et pour les plus grands tirages, 220 €. Donc, ce sont réellement les prix avec du papier en tirage d'art. Donc, l'exposition commence, elle, le 5 septembre. La partie un peu publique, événementielle, aura lieu, elle, le 12 septembre, en début d'après-midi, par justement ce qu'on appelle le vernissage. Donc, je serai présent, mais je serai présent à d'autres occasions. Et donc, elle dure tout le mois de septembre, une partie du mois d'octobre. Je n'ai plus en tête la date de fin.
Bon, on la mettra sur la page Facebook de la radio.
Voilà.
Je ne l'ai pas retrouvée non plus, en plus. Elle n'est pas marquée sur l'événement.
Mais vous pouvez aussi trouver au fil de l'eau, parce que j'y suis tous les jours, je publie tous les jours d'autres informations, tout ce qui concerne la forêt, sur le groupe Facebook. Donc, nous aimons la forêt de Compiègne. N'hésitez pas à vous inscrire. Je le dis parce qu'il y a parfois des gens qui abandonnent. Je pose deux questions pour valider l'entrée dans ce groupe-là, en fait, pour m'assurer que voilà, vous êtes bien évidemment concernés et que vous respecterez les quelques règles de bonne conduite qui s'imposent sur Facebook pour éviter que ça se dégrade. Et donc, n'hésitez pas surtout à répondre à ces deux petites questions. Comme ça, je valide très vite votre inscription et vous pourrez comme ça profiter directement en réception de toutes les nouvelles informations sur la forêt de Compiègne.
Les règles, du coup, c'est on ne parle pas de choses qui fâchent, pas de chasseurs, pas de coupe de l'ONF. Pour ça, il y a d'autres groupes, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et j'en suis d'ailleurs participant très actif aussi. Mais j'invite chacun et chacune, effectivement, à garder la mesure de ses opinions personnelles. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen de les exprimer, mais il faut le faire aussi parfois avec un peu d'intelligence. Donc le groupe lui-même reste un groupe effectivement positif. On peut y parler des sujets normaux, on peut y parler de la chasse, on peut y parler de la chasse à cours, on peut y parler de l'ONF et de certains de ses actions de gestion, mais je serai très très vigilant et je voudrais éviter de devoir exclure des membres qui malheureusement se servent de cela comme une tribune. Il y a effectivement bien évidemment d'autres sites. Pour la protection de la forêt, je peux qu'inviter les gens à s'engager dans les associations. Il y en a deux, une qui s'appelle Oise Nature et l'autre que j'ai déjà cité qui s'appelle la SPFC, Sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiénois. Et puis pour ce qui concerne la chasse à cours, je peux citer, c'est un petit coup de projecteur aussi, évidemment, bien qu'elle soit bien connue par ailleurs, l'association AVA, qui milite pour l'abolition de la chasse à cours, parce que ça ne m'empêche pas de militer pour l'abolition de la chasse à cours, mais pas sur mon groupe.
Et il y a une page Facebook SOS Forêt de Compiègne qui est gérée par d'autres personnes, c'est ça ?
Voilà, alors il y a d'autres groupes, effectivement. Cette page-là était gérée par un collectif d'associations qui, en particulier, a fait l'année dernière une manifestation assez importante sur la place de l'Hôtel de Ville à Compiègne, qui voulait interpeller l'ONF. Et cette page, à ma connaissance aujourd'hui, n'est pas forcément extrêmement active. Elle était gérée par une autre association qui s'appelle La Floc et qui, justement, visait aussi les forêts d'Ourscande, d'où le Haut, et de Carlepont, d'où le C, et l'Aigue, donc elle, à Floc, qui est un peu moins active. Mais de toute façon, les gens qui sont acteurs de ces associations-là sont tous interagissants, sont tous participants au même objectif, protéger la forêt.
Et vous vous retrouvez tous en forêt, de toute façon.
On se retrouve largement en forêt, parfois pas toujours au même moment, mais on y est effectivement très, très souvent.
La World Cleanup Day.
Oui, alors Walking Up Day France et Compiègne en particulier, donc le 19 septembre, vous en avez aujourd'hui trois qui sont référencés, à Jo au magasin Boulanger, à Vieux-Moulins, aux étangs de Saint-Pierre, organisée par Décathlon, et la troisième que j'anime et qui aura point de départ le parc du Château, et on va s'occuper tout le périmètre autour du Château et de l'avenue des Beaumont. Mais j'insiste, si vous avez envie de créer votre World Cleanup, votre clean-up day, pardon, et d'animer un petit groupe de 5-10 personnes maximum dans votre village, dans votre rue, dans votre entreprise, dans votre école, bienvenue, c'est gratuit.
Et puis on va revenir assez... Ah oui, du coup, j'avais une question un peu plus geek pour les photographes. C'est quel matériel que tu utilises pour faire tes photos quand tu vas en forêt? Alors moi, j'y connais rien du tout en photo, mais je sais que souvent, il y a des gens qui nous disent « Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'on utilise pour faire de la photo ou pour ce genre de choses. »
Alors, évidemment, c'est comme quand on parle de voiture, de moto, ce genre de choses, il y a ou d'ordinateur.
Les connaissants et...
Oui, et puis il y a surtout les partisans, ceux qui disent « Moi, je suis Mac et tout le reste, c'est pas bien. » Et dans le cas de la photo, ça ne va pas vous surprendre, il y a ceux qui disent « Moi, je suis Nikon et donc moi, je suis Canon. » Et il y a d'autres marques, bien évidemment, qui font du très, très bon matériel par ailleurs. Donc, au-delà des marques, effectivement, qui en soi n'ont pas beaucoup de sens, un point sur lequel je peux attirer l'attention, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai actuellement, maintenant, un boîtier qui n'a plus de miroir. Ce faisant, il ne fait plus de bruit du tout au déclenchement. Hein ? Sans miroir, ça permet de se passer totalement. C'est un hybride, donc, du coup, pour parler technique, pour le coup, c'est ce qu'on appelle un hybride à objectif que l'on peut changer. Mais c'est sans miroir. Et ça a une énorme évolution, une révolution même dans le monde de la photo de nature, parce qu'on peut photographier pendant des minutes entières un animal, si on n'est pas repéré, bien sûr, à l'affût ou à l'approche, mais en tout cas, tant qu'on ne le dérange pas, surtout, sans faire le moindre bruit. Et ça, c'est évidemment, pour la photo de nature et la photo de forêt, une révolution importante. Après, il faut évidemment plutôt un bon téléobjectif et qui peut travailler surtout sur les basses lumières. C'est souvent la problématique, c'est que mes amis photographes de forêt et moi-même, on est très souvent en forêt avant le lever du jour et on y reste jusqu'à la fin du jour. Entre les deux, on peut rentrer à la maison. Hein. Les animaux sont tranquillement cachés.
En train de dormir. Hein.
En train de se protéger aussi de l'impact de l'activité humaine, des routes, des villages, etc. Et donc, c'est là où on trouve le maximum de photos. Si j'ai 30 secondes, je peux parler du brame?
Bien sûr, j'ai lancé sur le brame, voilà. Puisqu'on va arriver sur la période du brame.
Oui, exactement. On est à quelques jours, on peut dire à quelques minutes, c'est peut-être même un tout petit peu commencé, mais on est au tout début de la période du brame, qui est une période évidemment extrêmement importante. C'est une période anniversaire pour tout le monde, tous ceux qui aiment la forêt de Compiègne. Et d'ores et déjà, justement, les retours des photographes, des habitués, des naturalistes les plus sérieux avec qui je collabore quotidiennement, prouvent qu'on trouve déjà de plus en plus de gens qui vont en forêt. Alors je ne peux que lancer un message d'attention, soyez respectueux au maximum des animaux. Cette période les rend extrêmement nerveux. Alors certes, du coup, ils sortent beaucoup plus facilement et on peut les voir, y compris dans le fameux, ce que j'appelle le zoo du pré de Batigny, près de Pierrefonds, cette grande pâture où quasi tous les jours, tous les matins, on est certain de voir des cervidés. Mais respectez-les, soyez prudents, ne vous approchez pas trop près, n'attirez pas plus que ça leur attention. Ils sont extrêmement nerveux, c'est leur période de reproduction. Et je prends parfois l'exemple de dire, est-ce que vous aimeriez avoir des spectateurs dans votre pièce, de vie qui regardent vos ébats? Non, on les respecte aussi, les animaux ont besoin de cette protection. Et donc soyez attentifs pendant ces périodes de brame, ils sont extrêmement énervés.
Restez le bord des routes, hein. Vous pouvez aller au Francfort, vous pourrez les entendre très facilement. Alors ce qui est dommage, c'est qu'avant il y avait les cabanes de Pierrefonds où on pouvait dormir dans les cabanes et puis entendre très facilement le brame. On avait fait un reportage là-dessus, c'était assez impressionnant. Oui. Et c'est vrai que pour les gens qui n'ont jamais entendu le brame, à chaque fois ils disent mais c'est dingue le bruit que ça fait, oui, la puissance.
Oui, alors c'est très bien. Effectivement, il y a deux façons de profiter du brame. Il y a la photo, les voir, mais il y a encore plus, c'est vraiment encore plus que les voir, les entendre. Entendre le brame de nuit, même sans voir l'animal, est vraiment quelque chose qui marque pour la vie. Quand on l'a fait, on s'en souvient. Ce son est absolument exceptionnel. Mais là, il n'y a pas besoin de se fatiguer beaucoup. Hein. Vous allez à Vieux-Moulins, vous allez à Saint-Jean-en-Bois, hein, sans même prendre le chemin de la forêt. Vous êtes là à 100% au cœur de la forêt, à la Brévière aussi, à Malassise, enfin, là où il y a déjà de l'habitation. Donc, de toute façon, vous n'apportez aucun dérangement, effectivement, sur leur zone, ce qu'on appelle les places sur lesquelles ils se retrouvent pour attirer les femelles. Et donc, à cet endroit-là, vous allez entendre le brame. Et c'est effectivement un moment très important, très magique. Et je vois que Brian le connaît, je le connais évidemment aussi.
Faites-le. Quand on habite dans le coin, c'est un peu la sortie obligatoire.
Allez écouter le brame, mais faites-le encore une fois dans des conditions de sécurité, de respect. N'oubliez pas également que les routes sont fermées à la circulation à partir de 21h le soir. Alors, les petites routes, les grandes routes, évidemment, on ne ferme pas la route de Crépy, on ne ferme pas la route de Pierrefonds. Parfois, il le faudrait, mais on ne le fait pas. Donc, vous pouvez aller à Saint-Jean-en-Bois, vous pouvez aller à Pierrefonds, vous pouvez aller à Vieux-Moulin.
Ouais, même Rotonde, le Franc-Port, Clairvoy, ça marche.
Saint-Crépin. Dès que vous avez un gros massif forestier, de toute façon, vous avez une assez forte probabilité d'entendre le brame.
Sinon, déplacez-vous ensuite en voiture, vous entendez, vous essayez d'aller vers le bruit.
Oui, on peut s'approcher en sachant qu'effectivement, en général, il est sur une place, qu'on dit, il est sur une clairière, un endroit ouvert où il va pouvoir affronter éventuellement où le cerf mâle dominant pourra pouvoir affronter des candidats à sa succession. Donc, en général, il bouge assez peu, effectivement. Quand ça brame, on peut s'en rapprocher un petit peu, oui. Pas trop, mais un petit peu.
La perte des bois, du coup, c'est après le brame ?
C'est en janvier.
D'accord.
C'est en janvier. En janvier, on commence à trouver effectivement des bois qui ont été perdus pendant l'hiver. Et puis après, ils vont repousser, ils vont faire des velours. Et des velours pour se protéger. Là, ils ont perdu leur velours maintenant. Ça s'est passé pendant l'été, juillet-août.
C'est un peu bizarre cette période-là. Ça fait des lambeaux de peau qui tombent des bois. C'est un peu étrange.
Alors, c'est un peu étrange, mais alors c'est tout à fait normal pour eux. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'ils ont perdu leur premier bois de daguet, leur lame, ils ont pris l'habitude de ça. Ils s'en nourrissent en plus. Et c'est extrêmement riche pour eux. Donc, ils n'hésitent pas. Et donc, oui, c'est une période importante parce que c'est là aussi où ils exposent leur bois de la façon la plus magnifique qui soit, puisque les bois sont dans l'état mature pendant le brame.
Et on peut les trouver en forêt, peut-être en faisant les randonnées nettoyeuses.
Oui, on cherche des déchets, mais on trouve aussi parfois, et en ce moment, par exemple, des champignons.
Ils sont sortis.
Mes premiers cèpes ce week-end, des bolets également. Donc, il y a de quoi aussi se faire plaisir. Respectez simplement là où vous mettez les pieds, respectez les petites pousses d'arbres, les petits plants de chêne, les petits plants de hêtre ou de charme que vous voyez sortir. Soyez attentifs à ne pas marcher n'importe où, mais si vous le faites avec respect et que vous trouvez des champignons, ben c'est juste du bonheur.
C'est vrai que là, c'est la période où, ça y est, septembre, on a les champignons, on a les noisettes, ensuite on va avoir les noix, les châtaignes, enfin voilà, on rentre dans la période un peu gustative de la forêt. Même si je sais qu'on peut manger toute l'année dans la forêt, on avait reçu une personne qui nous parlait de ça, mais ouais, là c'est la période plutôt cool où c'est assez facile de trouver de la nourriture en forêt.
Oui, c'est assez facile pour tout le monde de trouver de la nourriture, pour les animaux aussi. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on puisse continuer d'en profiter parce qu'on a vécu cette interdiction d'aller en forêt pendant la période de confinement comme un véritable une mise en prison. On était au cachot. Donc ça a été terrible et évidemment on ne souhaite absolument pas pour les uns évidemment et pour les autres, pour tout le monde, pour tous les auditeurs de Graphite, reconnaître une période de confinement. Donc restez prudents et continuez d'utiliser les masques et les gestes barrières évidemment.
Bernard, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On remettra toutes les informations si vous avez pris en cours de route l'émission sur la page Facebook de Graphite et évidemment le podcast www.graphite.net. Merci beaucoup.
Merci Brian et merci à tous les auditeurs.